Florence de Changy, bonjour.
Bonjour.
La disparition est donc le deuxième livre que vous consacrez à l'un des plus grands mystères de l'aviation civile moderne, la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines. Cette disparition s'est donc produite en mars 2014. Le vol MH370 transportait le 7 mars 239 personnes de Kuala Lumpur à Pékin. C'est un vol de nuit qui devait durer 6 heures. Décollage 0h40. Après 40 minutes de vol, l'avion quitte l'espace aérien malaisien. Le pilote prononce la salutation habituelle « Good night Malaysian 370 ». Ensuite, il doit se manifester très rapidement auprès du Vietnam car il est entré dans son espace aérien, mais cet appel n'aura jamais lieu. Les autorités malaisiennes prennent alors la tête des opérations de recherche et c'est le début d'une succession de cafouillages. On le voit dans votre livre, vous en faites toute la liste des cafouillages, contradictions, incohérences, même dans le rapport officiel, à tel point en fait, Florence, que ça en devient suspect.
Oui, absolument. Moi, j'ai couvert les tout débuts en allant à Kuala Lumpur pour le journal Le Monde et même une semaine après, on comprenait toujours rien. Ça partait dans tous les sens. Il y avait tous les jours des hypothèses nouvelles, des passagers suspects, un copilote qui avait fait des bêtises 2 ans avant. On commence à parler de l'avion qui a peut-être fait demi-tour, mais finalement non. On entend parler de fruits exotiques qui sont pas de saison. C'est pas totalement surprenant dans le cas de crash qui se passe au-dessus de l'océan, et c'est pas totalement surprenant dans le cas de la Malaisie, qui est quand même un pays assez désorganisé, que moi je connaissais bien parce que j'y avais déjà habité. Donc au bout d'une semaine, 10 jours, quand on nous dit qu'il y a des grands débris qui flottent en Australie et que c'est là-bas que l'avion s'est écrasé, moi je ne demande pas mieux que d'y croire, et je rentre à Hong Kong en me disant on va finir par connaître le fin mot de cette histoire. Mais c'est finalement pas comme ça que ça se passe.
Et la question qui laisse toujours perplexe, c'est quand même de savoir comment un Boeing 777 a pu disparaître dans cette zone, qui est quand même une zone où les armées, notamment américaines et chinoises, sont extrêmement présentes.
Oui, absolument. Et ça, c'est quand même un petit peu l'ineptie, disons, que je dénonce dès le début, en disant cette affaire, elle n'est pas incroyable, elle n'est simplement pas crédible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un Boeing 777, qui est un des avions les plus fiables, les plus sûrs, les plus éprouvés de toute la flotte et de l'histoire de l'aviation civile, qui plus est dans une des zones les plus surveillées, que l'on parle du golfe de Thaïlande, enfin, et de la mer de Chine, ou bien de l'autre côté, le détroit de Malacca, on a aussi bien les Chinois que les États-Unis qui surveillent toute cette zone en permanence. On peut pas être quasiment en direct avec la planète Mars et faire croire au monde entier qu'on a perdu la trace d'un Boeing 777 avec 239 personnes à bord. Donc, dès le début, c'est vrai que, mais encore une fois, pendant 15 jours, ça peut passer qu'on n'ait pas de nouvelles, mais 1 an, 2 ans plus tard, c'est là que ça devient absurde et ça devient inacceptable.
Face à toutes ces incohérences, l'un de vos interlocuteurs vous conseille de vous intéresser à, en fait, l'intérieur de l'avion. Alors, il y a 3 éléments, le pilote, le copilote, les passagers et la cargaison. Dans votre livre, vous disculpez le pilote qui a effectivement été mis en cause. Concernant les passagers, il y a 2 Iraniens avec de faux passeports, mais a priori, ça ne va pas plus loin. En revanche, vous faites des découvertes très importantes concernant la cargaison.
Effectivement, alors il m'a semblé très important d'avoir une idée claire et presque définitive, autant que faire se peut, parce qu'il s'agit quand même d'un être humain, sur le pilote. Et après une enquête assez approfondie sur sa personnalité, etc., j'en suis venue à la conclusion que c'était un homme assez exceptionnel, un excellent pilote, etc. Donc en fait, on doit trouver une situation à laquelle un pilote exceptionnel ne peut pas faire face. Mais effectivement, quand on m'a dit c'est dans l'avion, je me suis dit l'avion c'est soit les passagers, soit le cargo. Or, il y a quelques passagers qui sont un petit peu suspects, il y en a à vrai dire au moins 4 ou 5 qui, de par leur profil, leur place dans l'avion, etc., n'ont pas grand chose à faire là, mais je n'avais pas suffisamment d'éléments, donc j'ai pas insisté là-dessus. Par contre, quand il faut choisir entre passager ou cargo, ce qu'on m'a dit, c'est que à l'époque, si vous voulez faire passer des gens en Chine, les jets privés, en fait, ça se faisait déjà beaucoup. Donc, si ça avait été des espions ou quelque chose comme ça, on serait passé par jet privé. Si ça avait été un petit cargo, imaginons des informations très précieuses, mais sous la forme d'une clé USB ou je ne sais pas quoi. Pareil, on passe par des jets. Le fait que ça passe par un avion civil, ça vous oriente tout de suite vers un cargo qui est forcément lourd et encombrant. Et donc, c'est là que j'ai regardé de près la liste du cargo qui fait 10 tonnes au total. Il y a deux gros shipments. Un qui fait 4 tonnes 5, qui sont effectivement les fameux fruits qui sont hors saison, les mangoustines. Et puis, il y a 2 tonnes 5 de produits électroniques qui viennent de Motorola et qui sont très très mal identifiés. On nous dit que c'est des talkie-walkie et des chargeurs de batterie, sauf qu'on apprend par ailleurs, en lisant le rapport officiel, que ces 2 tonnes 5 de produits électroniques n'ont pas été scannés avant d'être embarqués.
N'ont pas été contrôlés et ont voyagé aussi sous escorte.
Exactement. Non seulement ils n'ont pas été scannés avant d'être embarqués, mais en plus, on apprend toujours dans le rapport officiel que ce cargo est arrivé à Kuala Lumpur International Airport la nuit même avant d'être embarqué sous escorte. Donc c'est vrai que ça rend cette cargaison extrêmement suspecte, disons.
Au regard de vos découvertes, quelle est votre thèse désormais?
Alors, après avoir fait donc cette enquête de plusieurs années, j'en suis arrivée à un certain nombre d'éléments clés, et notamment la présence sur zone d'avions américains de contrôle qui s'appellent des AWACS. On savait depuis le début qu'il y avait deux de ces avions, enfin, on savait d'une source haut placée de renseignements, et j'ai appris par la suite que ces avions avaient une très forte capacité de brouillage. Et donc, mon hypothèse, c'est que ce qui s'est passé, c'est que quand on dit que l'avion a disparu, en fait, il a été brouillé. Et il y a un certain nombre d'éléments qui confirment ce scénario, notamment le fait que le signal de l'avion, la cible, comme on dit, disparaît progressivement des écrans radars des contrôleurs aériens de la région, ce qui est tout à fait incompatible avec l'extinction du transpondeur comme on nous l'a décrit. Donc, mon scénario, c'est que l'avion, il a été en fait pris en sandwich, il a été brouillé, ce qui fait qu'il a disparu des écrans radars pendant une certaine période, et qu'à 2h25, quand le SATCOM de l'avion se rallume, quelque chose que personne n'a réussi à expliquer, pourquoi il se rallume? Parce qu'à ce moment-là, les AWACS ne peuvent plus tenir leur couverture, entre guillemets. Pourquoi? Parce que l'avion approche de l'espace aérien chinois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à ce scénario en mettant tous les petits morceaux d'évidence, de preuves, d'indices que j'avais. Mais cette partie-là, c'est de la déduction logique, en fait. Et donc, j'imagine que l'avion, il arrive à proximité de l'espace aérien chinois, que on voulait l'empêcher d'aller là, vraisemblablement, et la catastrophe a lieu peu de temps après. Il y a plusieurs éléments qui laissent penser qu'effectivement, y compris d'ailleurs les dialogues entre les tours de contrôle, que le drame s'est passé vers 2h45 et on est donc au nord du Vietnam et pas du tout au milieu de l'océan Indien.
Mais alors la question qui se pose, on a donc des AWACS américains qui ont pris en sandwich un Boeing, qui veulent le faire atterrir pour récupérer une cargaison sensible que potentiellement le pilote refuse d'obtempérer. Comment la décision d'abattre un avion civil a-t-elle été prise? Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est accidentel?
Très sincèrement, je n'ai pas du tout la réponse à cette question. Je me la pose aussi. J'avais envisagé effectivement le fait que ce soit la Chine qui inquiète de voir cet essaim en quelque sorte d'avion. Si c'est ce que j'ai imaginé et qu'on a donc un énorme Boeing 777 qui est entouré de deux AWACS, peut-être même avec des jets, on comprend que la Chine prennent peur et éventuellement face à un tir. Bon. Mais la réponse précise de l'opération militaire, je ne l'ai pas.
Et l'autre question qu'on se pose, c'est que pouvait contenir cette cargaison au point d'imposer cette initiative de la part de l'armée américaine?
Alors, j'ai eu des informations assez précises à ce sujet, mais je n'ai eu aucun moyen de les recouper et donc j'ai préféré ne pas les mentionner. Ça a été pas mal discuté parmi les théories. Que c'était des armes, des éléments d'espionnage,
pas sophistiqués.
Voilà, qui sortaient aussi éventuellement de l'Afghanistan, parce qu'on est exactement à la période où les États-Unis se retirent de l'Afghanistan. Donc, je sais aussi par des collègues qui étaient correspondants à l'époque là-bas, qu'on a des tonnes et des tonnes de matériel qui quittent l'Afghanistan et qui sont redispatchés dans le monde entier. Donc ça, c'est pas incohérent, c'est pas impossible. Mais j'ai eu des informations, mais j'ai pas pu les recouper, donc j'en ai pas parlé.
Et une telle opération suppose aussi un grand nombre de participants, des moyens. On suppose qu'il a fallu aussi nettoyer le site de l'accident. Il y avait le risque de fuite.
Oui, c'est vrai. Si mon hypothèse est réelle, c'est celle d'un crash donc à proximité immédiate des côtes vietnamiennes. On a forcément les militaires vietnamiens, les militaires chinois, et on sait aussi, parce qu'ils l'ont dit dès le début, qu'ils avaient autorisé des bateaux militaires américains dans leurs eaux, et donc dans leurs eaux, ça veut dire dans la zone économique spéciale à proximité immédiate du crash. Donc là, on a trois marines, mais qui sont par définition quasiment des trous noirs. On a évidemment quelques pêcheurs, forcément, qui auront été témoins, mais ce sont des pêcheurs vietnamiens. Donc on peut se dire que sur ce qui s'est passé sur place, c'est relativement verrouillé. Et puis on a ensuite, à la tête de certains gouvernements et à la tête des services de renseignement, évidemment des gens qui savent. Et il y a eu des fuites, il y en a déjà eu, moi j'en ai bénéficié, puisque comme je le cite dans le livre, il y a quand même plusieurs personnes qui donnent des indices très clairs. J'ai également rencontré un témoin qui demande à être soumis à un détecteur de mensonges, qui jure avoir vu à la télévision vietnamienne, le lendemain même du crash, des éléments dont la boîte noire être récupérés par les Vietnamiens. Donc il y a en fait un certain nombre d'éléments, il y a déjà eu des fuites, et moi j'espère qu'il y en aura davantage.
Et pour étayer votre thèse, vous rappelez aussi le rapprochement spectaculaire entre les États-Unis et la Malaisie. On voit dans votre livre qu'en fait, la Maison-Blanche est en contact avec la Malaisie de façon quotidienne après le crash.
Oui, absolument. La Maison-Blanche appelait le gouvernement malaisien tous les jours. Le FBI était sur place dans les locaux de Malaysia Airlines, mais aussi dans les locaux d'un certain nombre d'autres sociétés très importantes le lendemain même, y compris à Singapour, ce qui est absolument pas normal. Mais ce que j'ai fait, quand j'en suis arrivée à la fin du scénario, je me suis dit, bon, maintenant, c'est qui? C'est soit les États-Unis, soit la Chine, parce que c'est les deux plus grandes puissances mondiales et que forcément, elles se sont mises d'accord pour couvrir l'affaire et que personne n'en parle. Et à ce moment-là, j'ai regardé les échanges diplomatiques entre le président chinois et le président américain. Et j'ai été absolument stupéfaite, je dois dire, de trouver ce que j'ai trouvé à ce moment-là. On voit très bien et très clairement que les États-Unis, d'une certaine façon, se comportent comme le coupable et que la Chine se comporte comme celui qui a la haute main et qui est en mesure de réclamer une négociation, en fait.
Vous pointez dans votre livre le fait qu'il y a des contacts entre Xi Jinping et Obama et la façon dont ces entretiens sont retranscrits du côté de Washington ou du côté de Pékin. On peut supposer effectivement qu'il y a une tension sur ce dossier.
Absolument, c'est même flagrant. Le tout premier exemple, c'est le lendemain même de l'accident, donc on est le 9 mars, et là on a les Chinois qui appellent Barack Obama, qui lui est en Floride avec sa femme et ses deux filles. Vous savez, en Chine, ils aiment bien, pour montrer que c'est important, vous appeler à un moment qui n'est pas pratique. Et donc, déjà, le seul fait que la Chine impose un appel entre les présidents, alors que c'est lundi matin à Pékin, mais que c'est dimanche soir en Floride, ça montre qu'il y a urgence. Cet appel, il a été détaillé dans la presse chinoise. On a dit que c'était à propos de MH370. Dans la presse occidentale, on n'en fait même pas mention. Et quand on va regarder dans les archives de la Maison-Blanche, on voit qu'ils ont listé toute une série de sujets. Bien sûr, à l'époque, il y avait l'Ukraine, la Crimée, etc. Mais qu'ils n'ont pas mis MH370. Et comme je dis dans le livre, effacer des traces laisse des traces. C'est extrêmement maladroit de faire ça. Pourquoi ne pas dire? Ils auraient tout simplement pu dire, on a présenté nos condoléances, etc. Mais non, ils ne le mettent même pas. Et alors, 15 jours plus tard, quand les deux hommes se rencontrent, c'est encore pire, je le décris dans le livre.
Tout à l'heure, vous parliez de l'intervention de la présence du FBI. Alors, elle est étonnante, cette présence du FBI, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la non-présence de Boeing.
Alors, tout à fait. Et ça, d'ailleurs, j'ai plusieurs grands patrons de compagnies aériennes qui me l'ont dit indépendamment. Boeing a fait preuve d'un silence sur toute cette affaire qui est pas normal.
Et vous terminez par un proverbe malaisien, les poissons sèchent, le chat attend. C'est votre état d'esprit actuel ?
Oui, je suis vraiment convaincue que la vérité va tomber tôt ou tard, un peu comme un fruit mûr. Mon livre va peut-être avoir l'effet de secouer un petit peu l'arbre et de motiver les gens qui connaissent d'autres parties de la vérité de parler. J'estime en fait que c'est un devoir vis-à-vis des gens qui ont perdu leurs proches, mais vis-à-vis aussi du monde entier. On est dans une époque assez toxique où on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et oui, il me semble essentiel d'établir la vérité sur cette affaire.
Merci Florence de Changy.
Merci à vous.